Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Résultat. Des résultats du week-end avant Culture Sport, hein, où Dédé et Didier ont reçu Gilles Rouffignat, le président du district de la Charente de football. On va revenir sur les principaux résultats du week-end, en commençant notamment par la Coupe de France de football, puisque c'était le quatrième tour de la Dame Coupe. Donc il restait 7 Charentais en lice pour ce quatrième tour. Donc c'était le stade de la compétition où les clubs encore en lice recevaient les dotations de la Fédération Française de Football, à savoir le maillot de l'épreuve, ainsi que les chaussettes et le short, l'équipement complet. Et donc fortune diverse pour les Charentais, puisque le samedi soir, les 4 premiers étaient en lice. Et malheureusement, ça a fait du 0 sur 4 avec l'élimination de Mornac héroïque par Sarlat au pénalty à l'issue d'un match épique, puisque le score final était de 4 partout et malheureusement Sarlat est passé au pénalty. Bravo à Mornac, hein, puisque Sarlat était quand même 3 divisions au-dessus des Mornaquais et ils ont fait un très beau parcours. L'Alliance 3B s'est malheureusement incliné logiquement à domicile contre Mérignac-Arlac 3-1. Les hommes de Adnan El Archi n'ont pas pu combler l'écart de 2 divisions d'écart. Lège Cap-Ferré malheureusement a battu Cognac 2-0. Et enfin, Sireuil s'est incliné à Saint-Jean-d'Angély 1-0. Des scores logiques, hein, puisque les 4 Charentais malheureusement étaient inférieurs hiérarchiquement. Le dimanche, roulement de tambour, puisque les 3 Charentais en lice se sont tous qualifiés. La CFC s'est imposée à Caponis 3-1 avec des buts de Thierry Lemaître, Alex Morabit et Léo Fichten. Merpin s'est imposé 5-0 du côté de Faux, une D1 de Dordogne. Et enfin, Charente-Limousine a battu Limoges-Landouche 2-0. Ce qui fait qu'au prochain tour, nous aurons 3 Charentais présents donc au tirage au sort qui aura lieu vendredi à 18h30. Pardon. Donc nous verrons à quelle sauce les Charentais seront mangés. Dans le même temps, il y avait de la D1 féminine puisque la JS Soyou a disputé son premier match au stade des Hauts-de-la-Grange. C'est un match hyper important, hein, pour les filles de Stéphane Guigaud puisqu'elle recevait Rodez. Et on va le voir que ça s'est très bien passé puisque Soyou s'est imposé 2-0. Grâce à des buts de Camille Collin en tout début de rencontre et puis de Daniel Roux. Le score a été 2-0 à la mi-temps et puis en deuxième mi-temps, Soyou a bien géré son avance pour s'imposer 2-0. Après des matchs hyper encourageants contre Paris Saint-Germain et contre Lyon, Soyou confirme son bon début de saison en prenant ses 3 premiers points de la saison. Et c'est une très bonne chose. Au niveau des autres résultats, donc le Paris FC a battu Le Havre 1-0. Lyon s'est imposé à Montpellier 3-1. Donc Soyou a battu Rodez 2-0. Dijon s'est imposé à Guingamp 1-0, Reims a battu Bordeaux 1-0 et enfin le Paris Saint-Germain a battu Fleury 2-1. Au classement, Soyou est 8e avec 3 points. C'est 3 longueurs d'avance sur le premier relégable Guingamp. Prochain déplacement pour Soyou le week-end prochain du côté de Fleury en région parisienne. On va rappeler en rugby le résultat du SA15 avec la victoire du SA15 contre Béziers 19-10. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour Cognac, hein, qui s'est incliné à Chambéry 30-18. Le bonus défensif n'était pas si loin que ça, mais malheureusement les hommes de Fabrice Lampreau s'inclinent à nouveau. Prochain match contre Dax, hein, le 8 octobre. Du côté de la Fédérale 1, Barbezieux malheureusement s'incline à Nantes 35-6. Apprentissage compliqué de la Fédérale 1 pour les Barbeziliens qui sont lanterne rouge du classement avec 3 défaites en 3 matchs et seulement 1 point au compteur. Donc pour Barbezieux, il va falloir vite gagner. Peut-être lors de la prochaine journée, hein, puisque Barbezieux se déplacera à Langon. Langon qui est quand même 3e, donc ça risque d'être à nouveau compliqué. En handball, en National 2 masculine, l'ETEC a reçu 100%, puisque l'ETEC enchaîne sa 3e victoire en 3 journées, avec une victoire d'un seul but d'avance contre le CJ Bouguenais, 30-29, mais un petit écart qui suffit au bonheur des Charentais qui sont premiers dans leur poule avec à égalité de points d'ailleurs avec Asson. Donc un très bon départ pour les Tech. Un bon départ également pour la CH en National 1 féminine, puisqu'Angoulême recevait Rochechouart Saint-Junien. C'est une formation qui était en D2 la saison dernière. Donc un match hyper compliqué. Et dans un match pauvre en but, c'est la CH qui l'emporte 21-18. La défense a pris le pas sur l'attaque pour le plus beau bonheur des Angoumoisines qui ont gagné donc 2 matchs sur leurs 3 journées. Donc la CH est 4e. Cognac est 13e, mais Cognac n'a pas joué puisque Cognac était exempt ce week-end puisque c'est une poule à 13 équipes. Donc Cognac malheureusement donc n'a disputé que 2 matchs et donc avait perdu ses 2 matchs. Donc Cognac est dernier en basketball après sa lourde défaite à La Rochelle. La Couronne Basket en National 3 féminine recevait Tours, un match forcément compliqué. Mais une belle victoire pour le LCB qui s'impose 65 à 55, reçu 1 sur 2 pour le LCB qui pointe à la 8ème place au classement général. La prochaine journée qui aura lieu le week-end prochain avec le LCB qui se déplacera au Poinçonnet. Le Poinçonnet qui a remporté ses deux premiers matchs, donc ça risque d'être compliqué. Pour les couronnaises, un mot de cyclisme avec le mémorial de l'automne qui avait lieu ce week-end à Chasseneuil, remporté par Lucas Boniface de la formation Vendée-U. Donc Vendée-U, c'est l'antichambre de l'équipe Total Energy. Et on a le bonheur en Charente d'avoir eu la seconde place d'Antonin Souchon de l'Océan Top 16 qui termine deuxième de la course avec d'ailleurs une moyenne record de l'épreuve puisque l'épreuve s'est courue à presque 43 km/h de moyenne. En athlétisme, on va souligner la belle performance de Clément Anglada qui termine troisième du 20 km de tour. Donc c'est une très belle performance pour Clément qui court donc les 20 km en 1h04. C'est donc une perf de niveau national 4 et c'est vraiment un très beau chrono pour sa part. Enfin, on va terminer par le judo avec la couronne Grand Angoulême Judo qui disputait notamment ce week-end un tournoi cadet du Clé de Rochefort. A souligné une moisson de médailles pour les couronnés hein, puisque l'équipe de Guillaume Avril repart avec 5 médailles dont 2 en or, 1 en argent et 2 en bronze. Donc c'est plutôt une belle moisson pour le judo couronné. A noter également que le week-end prochain du côté de Cellier en Slovénie, Julie Pierret et Morgan Artuis seront sur les tatami pour une European Cup. Hein. On le rappelle, c'est avant tout pour préparer les championnats de France qui auront lieu dans un gros mois du côté de Toulon. Donc on suivra les performances de Julie Pierret et de Morgan Artuis et on en reparlera la semaine prochaine. Tout de suite, Culture Sport avec Gilles Roufignat, le président du district de la Charente de football.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire. Chaque lundi 19h-20h30, nous accueillons Gilles Roufignat, président du district. Gilles, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue.
Oui, merci à vous. C'est toujours très agréable.
J'accueille Dédé. Dédé, bonjour.
Salut Didier, salut Gilles et salut les auditeurs.
D'accord. En pleine forme, Dédé?
En pleine forme.
C'est bien, c'est parfait.
C'est le début de saison. Okay. C'est le début de saison, donc je suis en forme.
Ouais, donc t'as fait le training comme il faut, tout bien.
Non, je fais de la gym douce.
Ton séjour à La Rochelle t'a fait du bien, non?
Ça m'a fait énormément de bien. C'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses et j'en profite pour remercier tout le personnel soignant qui était et qui sont à la disposition des patients. Et je remercie également les cardiologues qui ont fait que je sois encore aujourd'hui parmi vous tous.
Parfait, merci beaucoup. Donc, Gilles, donc d'un mot, donc encore une fois, bienvenue. Est-ce que on peut démarrer en faisant, si tu veux bien, un bilan de la saison passée?
Oui, alors tout à fait. Vendredi dernier, nous avons tenu à Ruffec notre assemblée générale. Cette année, innovation, on a fait une seule assemblée générale en début de saison, qui regroupait à la fois une assemblée extraordinaire, l'assemblée ordinaire, et puis l'assemblée financière. Voilà, donc c'est une nouveauté et ça a plu au club parce qu'au lieu de les réunir deux fois, une fois en juin, une fois au mois de septembre, et de novembre, pardon, on le fait une fois en septembre et en début de saison. Alors, si on revient sur le bilan, bon, j'ai un double regard sur l'année passée. Il y a à la fois un regard de satisfaction et puis un regard teinté d'amertume, de déception, d'inquiétude. Alors, le bilan positif, il y a deux, trois choses. Tout d'abord, on a pu, enfin, après 2 ans de disette, terminer une saison complète. Les clubs ont joué, ce qui fait qu'on a eu de belles finales, que ce soit en championnat ou en coupe. On a eu une saison qui s'est bien terminée, surtout sur le plan sportif. La deuxième chose, c'est qu'on termine l'année avec une évolution du nombre de licenciés, 11,3% sur un an, avec deux ou trois secteurs qui se développent bien. Le foot d'animation chez les jeunes garçons et filles, plus 30, plus 40%. Et puis, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, et ce que disaient les mauvaises langues, eh bien, sur les seniors, une évolution de 6,1% sur un an et de 1,3% sur 2 ans, ce qui...
Allô, Gilles ?
C'est-à-dire que nous avons totalement, chez les seniors, allô ?
Oui, c'est bon.
Oui. Vas-y. Ça veut dire que nous avons totalement rattrapé sur deux saisons les pertes de licenciés d'il y a deux ans. Donc c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant. Alors certes, il y a quelques domaines sur lesquels il nous faut porter nos efforts, mais globalement, 11%, 11,3% d'évolution, c'est un bon score.
Ça vient lisser un petit peu les effectifs anti-Covid, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, excuse-moi, il y a peut-être une petite interruption due au fait, et je m'en excuse, que je suis en voiture.
Je t'en prie.
Mais effectivement, nous avons, notamment chez les seniors, récupéré la perte d'effectifs depuis deux ans. Donc c'est plutôt encourageant. Ça veut dire tout simplement que pour moi, les gens, ils ont envie de jouer au foot et ils sont prêts à nouveau à en découdre positivement sur les terrains. Et puis le troisième motif de satisfaction, eh bien, c'est que nous avons, justement pour éviter au club de perdre des licenciés, nous avions lancé l'an dernier une nouvelle compétition, le Critérium A7. 9 équipes y ont participé l'an dernier. Et nous en avons 19 qui sont inscrites pour la saison à venir. Donc ça montre tout simplement que les clubs, ils ont bien envie de jouer, les clubs et les licenciés ont bien envie de jouer au foot.
Petite précision, Gilles, quand tu dis il y a des endroits où on a plus évolué que d'autres, est-ce que tu pourrais géographiquement nous situer un petit peu où ça s'est développé ?
Oui, bonjour Dédé. Je ne savais pas, contrairement à ce que tu as dit, que tu avais subi un épisode médical, donc tous mes encouragements et ma sympathie t'accompagnent. Je ne voulais pas parler de secteurs géographiques. D'ailleurs, j'ai dit qu'il y avait d'accord. des secteurs. Non, mais il y a des secteurs d'activité sur lesquels on a eu de bons scores. Puis il y en a d'autres où c'est moins bon. Je parle notamment des arbitres où il y a une petite baisse des arbitres. Et puis des bénévoles où on a une perte de 10%. Donc c'est un sujet sur lequel nous allons devoir nous pencher. Parce que effectivement, le Covid a fait du mal de ce côté-là, et les gens qui sont bénévoles, qui peuvent être âgés, mais c'est pas péjoratif ces gens-là, ils sont peut-être un peu détournés du foot, et il faut qu'on soit attentif à ces situations.
Au niveau des poules pour cette année, alors je sais que c'est pas facile, hein, c'est presque du temps plein que vous avez avec tant de poules au niveau du district. Il y a des personnes qui sont habilitées pour faire les poules. Comment vous organisez quelques années
alors,
où
tu as la tête. Alors, oui, alors les championnats, si tu veux, la constitution des poules, des calendriers, c'est d'abord fait par les commissions. Donc, on a trois commissions qui sont très actives, qui sont liées aux compétitions. C'est la commission senior, la commission jeune et la commission féminine. Et puis après tout cela est canalisé, conforté, analysé par le pôle compétition, hein, qui est géré par notre salarié Jonathan Blondy, qui est notre responsable. Mmh. L'ensemble des calendriers, c'est un gros puzzle. Hein, c'est-à-dire que d'abord on définit un calendrier, après on tient compte de ce que nous demandent les clubs pour dire j'aimerais que ma B joue enlevé de rideau de la A. Et puis j'aimerais que la C joue en même temps que la B, donc il y a ce qu'on appelle les desiderata des clubs. Ceci étant lié avec l'occupation des terrains, donc on a un logiciel informatique qui nous est fourni par la Fédération française de football, qui permet de rentrer toutes les données. Et puis après c'est le logiciel qui fait la grille de répartition des rencontres. Alors bon an mal an, on arrive à tenir 90% des 90-95% des desiderata. Et puis malheureusement, de temps en temps, il y a des clubs qui n'ont pas ce qu'ils souhaitaient. Je dirais que c'est un peu indépendant de notre bonne volonté. Et en plus, cette année, cerise sur le gâteau, c'était un nouveau logiciel de compétition fourni par la fédération pendant l'été avec deux jours de formation pour une seule personne. Et puis, deuxième cerise sur le gâteau, un bug informatique. La semaine dernière, qui a fait qu'un certain nombre de choses qui avaient déjà été faites ont dû être programmées. Donc très clairement, cette année, même si le 12 août, nous avions donné au club leur calendrier pour les seniors, tout a été remis en cause. Alors on a eu aussi des désistements de clubs, hein, en deuxième, troisième, quatrième division, qui nous ont incités à remodeler les calendriers, le tout compliqué par le nouveau logiciel. Si j'étais un petit peu grossier, je dirais que c'était un vrai bordel, mais grâce à l'engagement des commissions et des salariés, bah, on a réussi à s'en sortir, même si encore une fois, eh bien, 5% des clubs peuvent nous dire on n'a pas eu ce qu'on voulait. Mais il faut qu'on en tire les enseignements pour la saison prochaine.
Gilles, est-ce que la réforme du calendrier avec les montées et les descentes en élite, donc au niveau de la première division, de la deuxième division et du national, ont été impactées par rapport à votre calendrier, à vous ?
Alors, oui, mais ça n'est pas impacté par rapport au calendrier. En réalité, il y a une... Alors, et on a informé les clubs, et on en reparlera... Pardon, on en a reparlé lors de l'AG. En réalité, il y a une réforme des championnats nationaux, notamment de National, de N2 et de N3. Hein, la Fédération, lors de l'Assemblée Générale du 18 juin à Nice, a validé cette réforme qui tend à diminuer le nombre de clubs en National, N2, N3. Donc, ce qui va faire beaucoup plus de descentes dans les ligues, donc ce qui va faire plus de descentes dans les districts.
Oui, absolument.
Donc, nous, si tu veux, les clubs qui vont descendre de R3, c'est les trois derniers de chaque poule de ligue et les huit plus mauvais neuvièmes.
D'accord.
Donc compte tenu du nombre d'équipes qu'on a en R3, nous on devrait normalement avoir soit zéro club parce qu'ils sont tous maintenus, soit un maximum de 7 clubs qui descendent. Parce qu'on a une poule de R3 où on a 6 clubs. Donc si dans cette poule-là, il y a les 3 derniers sont charentais et le 9e fait partie des moins bons 9e, on pourrait en avoir 4. Après, on a une poule de 1 où on a un club et une poule où on a 2 clubs. Donc au total, notre pyramide des compétitions, elle va de 0 club qui descendent de R3 à 7 clubs qui descendent de R3.
D'accord.
Mais c'est un effet boule de neige qui n'est pas une volonté du district, qui n'est pas une volonté de la Ligue, mais qui est simplement les conséquences de la réforme des compétitions nationales.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 98.7, mais aussi www.attitude FM. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports, le lundi 19h-20h30. Nous retrouvons notre invité Gilles Rouffinia, président du district, qui répond au feu des questions de BD.
Tu disais, fort justement, il y a eu des passages, des mois difficiles dus au Covid. Aujourd'hui, on va avoir un deuxième problème. Et est-ce que vous êtes penché dessus sur l'énergie? L'énergie qui, certaines mairies aujourd'hui, demande au club de jouer le dimanche. Et là, est-ce que vous avez pensé à ça? Et est-ce que ça peut porter préjudice à certains joueurs qui aimaient jouer le samedi au lieu du dimanche après-midi?
Alors, à aujourd'hui, oui, c'est un sujet préoccupant. Mais à aujourd'hui, nous n'avons eu, nous, au district, aucun contact, aucune demande de club ou de municipalité dans ce sens. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas être un jour obligé d'évoquer le sujet. Après, le sujet que tu évoques, c'est comme quand il y a des intempéries, le propriétaire des installations, ce sont 9 fois sur 10, d'ailleurs 10 fois sur 10,
ce sont
les municipalités. Hein. Je crois qu'en Charente, on avait un cas dont le terrain n'était pas lié à une municipalité, c'était le club de Leroy-Somer. Mais ça n'est même plus le cas maintenant. Donc les propriétaires des installations sont les municipalités. Partant de là, ce sont les municipalités qui décident ce qu'elles veulent ou ce qu'elles ne veulent pas faire. Et nous, districts, comme nous ligues, on devra tout simplement, comme les joueurs d'ailleurs, on devra tout simplement s'adapter. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour dire à une municipalité, il faut jouer le samedi soir. Et si des clubs disent on n'a pas envie de jouer le samedi soir, eh ben il faudra qu'ils trouvent une solution pour jouer le dimanche. Donc c'est un sujet préoccupant dont nous n'avons pas eu à traiter les conséquences pour le moment, mais je dirais que notre rayon d'action est très faible dans ce domaine.
Ben, y a des joueurs qui aiment jouer le samedi et d'autres, ben, ça permet de libérer au moins un jour férié en famille. Donc ça peut aussi peut-être porter préjudice à certains clubs au niveau de, bah, de du joueur.
Bien sûr, mais enfin, Dédé, ben, je suis désolé, mais j'y peux rien. Moi, j'aime bien aller au restaurant.
Non, mais Gilles, j'aime bien
aller au restaurant le soir. Si un jour on me dit, pour X raisons, tu pourras plus aller au restaurant le soir, mais ça sera le midi. J'ai deux options. Je me dis, j'aime bien le restaurant et j'y vais le midi, ou j'aime plus assez le restaurant et j'y vais plus du tout. Je suis désolé de le dire, mais tout le monde a une responsabilité dans ce genre de situation. Puis je vais même encore plus loin. Et là, c'est un propos un peu de, comment dire, de citoyen. Il faut aussi que chacun soit capable de faire preuve d'effort et d'objectivité et de réalisme par rapport à des sujets qui sont encore plus importants qu'un match de 4e, 5e ou 3e division de district. Mais j'en appelle à chacun sa responsabilité. Moi, j'ai aucune doctrine là-dessus et j'ai aucun moyen d'action.
Non, mais c'est bien de pouvoir en parler. Au moins, on a le point de vue du responsable du district. Je pense que la morale. Effectivement, chacun prend conscience, évidemment, des problèmes qui aujourd'hui, malheureusement, sont indépendants de notre volonté. Et c'est bien d'avoir le point de vue du président. Donc, moi, je tenais à te remercier sur ta réponse qui me satisfait amplement.
C'est sympa de l'aider. Par contre, je le dis, ma réponse, elle n'engage que moi. Et c'est plus un.
On est bien d'accord.
Et c'est plus une réponse de citoyen que de président de district, en sachant que le district n'a aucun moyen d'action sur le sujet. Alors, je voulais, avant qu'on me parle des projets, tout à l'heure, je vous disais que mon regard, il était double sur la saison dernière. Il y avait de la satisfaction, je viens de l'évoquer. Puis qu'il y avait aussi de l'inquiétude, de l'amertume et de la déception. Alors, sur ce chapitre-là, je veux dire quoi? Eh bien, c'est tout simplement la montée des incivilités et de la violence.
Ça continue donc?
Oui, mais bon, malheureusement.
C'était quelque chose de récurrent quand même, Gilles, non?
Oui, ben, si tu regardes ce qui se passe dans les rues de nos villes, de nos campagnes, sur les routes, dans les manifestations. Malheureusement, c'est pas une excuse, mais malheureusement, et je l'ai dit hier à la presse, je suis convaincu que c'est le reflet de notre société. Alors, ça n'excuse absolument rien. Mais je veux dire, ne donnons pas au football plus de responsabilité qu'il n'en a. Je vais vous donner deux, trois indications. On a eu cette année des sanctions de... Alors, pourquoi le phénomène est inquiétant? On a eu cette année de plus en plus de problèmes de discipline avec de plus en plus, pardon, de sanctions lourdes. Mmh. On a une sanction de 3 ans, une sanction de 2 ans. Donc, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de sanctions lourdes. Deuxième chose. Sur 25 sanctions les plus lourdes, c'est-à-dire celles qui correspondent à plus de 9 matchs de suspension, il y en a 8 qui concernent des éducateurs ou des dirigeants et 6 qui concernent des matchs de jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi que le phénomène d'incivilité, de violence, il se déplace du terrain et des joueurs vers l'extérieur des terrains et vers les dirigeants et les bénévoles, et je serais même tenté de dire vers les parents. Donc là, il y a une vraie responsabilité à la fois individuelle et collective pour dire que si le football, malheureusement, connaît des problèmes, c'est peut-être parce que autour des terrains, les gens ont du mal à bien se tenir.
Ouais, tu veux dire que le cœur des incivilités n'est pas forcément lié aux pratiquants du football.
C'est exactement ça, Didier. C'est l'évolution qu'on constate actuellement. Alors, par contre, je dois dire quand même que ça concerne pas tous les clubs. Il y a des clubs qui continuent à vivre leur passion, qu'ils soient joueurs, dirigeants, jeunes, anciens, etc., dans de bonnes conditions, qui prônent les valeurs du foot, c'est-à-dire le plaisir, la convivialité, la fraternité. Et ces clubs-là, ils méritent d'être encouragés. Donc moi, je leur tire mon chapeau et je les encourage à continuer dans ce sens.
On parlait de jeunes, je crois que tu parles de U16, U17, enfin tous ces jeunes-là. Est-ce qu'il y a une évolution? Parce qu'on parlait d'évolution de 11% en licenciés. Est-ce que cette catégorie des jeunes rentre dans ce cadre des 11%?
Oui, absolument. Je te dis, les catégories de licenciés sur lesquelles on perd, c'est les arbitres, c'est les dirigeants. C'est un petit peu chez les féminines moyenne d'âge, ou seniors. Et globalement chez les jeunes, on a au moins une stabilité. Mais moi, ce que je remarque, c'est que alors, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais quand j'évoquais l'évolution des licenciés chez les tout petits, ce travail, il faut le mettre au crédit des clubs. Hein, si on évolue, c'est grâce aux clubs, parce que ce sont les clubs qui accueillent les jeunes, ce sont les clubs qui font prendre des licences, ce sont les clubs qui les encadrent, ce sont les clubs qui font les écoles de foot. Donc ça montre quand même que tous les efforts que l'on fait en matière de structuration des écoles de foot, c'est important, parce que ça a permis d'accueillir les jeunes dans de bonnes conditions.
Bien sûr.
Donc chez les jeunes, nous avons, bon an, mal an, nous avons là par rapport à la saison dernière, à peu près le même nombre de licenciés, le même nombre d'équipes. Alors, comme les engagements jeunes étaient un petit peu plus tardifs, on avait une date différente, je n'ai pas les statistiques, mais si je reviens sur les seniors, l'an dernier, oui, on avait 202 équipes engagées en début de saison, seniors. Hein. Cette année, on en a 198.
D'accord.
Et sur les 202 engagés, il y en a 187 qui ont fini la saison. Ça veut dire que le nombre d'engagés aujourd'hui est pratiquement le même que l'an dernier, et il est bien au-dessus du nombre de clubs qui ont fini la saison. Donc, ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas trop de forfaits pour cela.
Donc, on a dû. Le point le plus faible, Gilles, si j'ai bien compris, c'est au niveau de l'arbitrage. Et je pense que là, évidemment, vous en avez discuté et vous allez sûrement travailler sur justement à intéresser les jeunes à arbitrer. Et quelle est la raison? Est-ce que vous connaissez un petit peu la raison que les jeunes ne veulent plus prendre le sifflet?
C'est pas seulement les jeunes, hein, sur l'arbitrage. Alors d'abord, le point le plus, je veux dire, le plus faible en termes de prise de licence, c'est les bénévoles, plus que les arbitres. Donc sur l'arbitrage, oui, on a mis en place un plan de relance de l'arbitrage pour justement intéresser. Alors, je pense qu'il y a aussi une responsabilité des clubs en matière d'arbitrage. C'est-à-dire que les clubs, ils cherchent des arbitres pour répondre à ce qu'on appelle les obligations du statut de l'arbitrage, hein, puisque en fonction du niveau où tu joues, si tu n'as pas tant d'arbitres, et ben à terme, tu peux avoir une sanction financière ou un nombre de limites de comment on appelle ça de muter en moins.
Ah oui, d'accord.
Pour ceux, je pense que les clubs n'ont pas intégré la notion d'avoir des arbitres au-delà du fait que ça leur évite de prendre des points et des amendes et d'avoir moins de muter. Donc je pense que les clubs ont malgré tout une responsabilité. Ils ne font pas ce qu'il faut ou suffisamment pour intégrer les arbitres dans la vie de leur club. Par exemple, un club qui fait un tournoi. Club qui fait un tournoi, je suis pas sûr, qui demande à son ou ses arbitres de venir arbitrer le tournoi. Ce qui est quand même le moindre des choses. Voilà. Après, on va aller dans les clubs. On a déjà commencé. Récemment, la commission des arbitres est allée à Saint-Michel. Il y a des projets avec Muller, avec Merpin. Ils sont allés à Jarnac l'an dernier et ils sont intervenus pour discuter avec les jeunes et avec les dirigeants, pour expliquer, pour former, pour inciter. Et à chaque fois, je crois que c'est à Mansle, il me semble à Mansle, trois ou quatre arbitres ont été recrutés parce qu'on est allé les voir. Alors nous, district, où on a une responsabilité, c'est que c'est pas suffisant de faire un mail, d'envoyer une pub, de faire un post sur Facebook. Il faut aller dans les clubs. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on va dans les clubs, comme récemment à Saint-Michel, eh bien, ça déclenche des vocations, ça déclenche des envies, parce que rien ne vaut le fait de discuter avec les jeunes, de répondre à leurs questions. Alors, en sachant qu'en plus, nous, en Charente, on est un des rares districts à le faire, mais pendant un an, on accompagne les jeunes arbitres. Voilà. Donc, si tu veux, le problème de l'arbitrage, oui, il est lié aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes. Je pense qu'il y a d'autres raisons derrière. Alors, on fait beaucoup de formations pour les arbitres. On a trois séances 3 sessions de formation initiale des arbitres. Il y en a une qui s'est tenue il y a 15 jours, je crois, à quelque chose près qu'on a dû valider 12 nouveaux arbitres. Donc en gros, c'est, si je prends une image, il faut prendre son bâton de pèlerin, faut aller voir les clubs, faut aller voir les jeunes, faut en parler, faut faire des actions comme le biathlon d'arbitrage qui concilie des épreuves théoriques et des épreuves pratiques, et faut leur donner envie de devenir arbitre. Donc on a un plan de relance de l'arbitrage, c'est une, on a 3 priorités hein, pour l'année à venir. On a le développement des pratiques en général, dont je pourrais dire un mot après. On a l'arbitrage que je viens de traiter.
On a la structuration et l'accompagnement des clubs.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 90.7, mais aussi www.attitude.fm. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports, le lundi 19h-20h30. Nous retrouvons notre invité Giroud Finia, président du district, qui répond au feu des questions de Dédé.
Je viens de voir qu'il y a un petit jeune, là, je parle du club que je connais,
SNR5,
qui a donc un petit jeune aujourd'hui qui s'est investi dans l'arbitrage. Est-ce que c'est aussi le fait, parce que de temps en temps, je vais voir des matchs, ça me fait mal des fois, ça me fait mal d'être autour d'une main courante et de voir comment est traité un arbitre. Et ça, ça n'encourage pas l'arbitrage.
Bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, c'est
ça qui me révolte un petit peu. Je comprends
que la difficulté
que vous avez.
Mais c'est lié à ce que j'évoquais tout à l'heure sur les incivilités et sur la violence et qu'ils se passent hors des terrains. Je veux dire, malheureusement, on pourra faire les meilleures actions du monde, on pourrait être le plus incitatif possible, le plus valorisant possible. Si le samedi, le gamin, il se fait, le jeune arbitre, il se fait agresser, enfin, quand je dis agresser, ne serait-ce que verbalement, une fois, et puis deux fois, et que ça arrivait 3 fois en 2 mois, inévitablement, on perdra ces gens-là. Mais c'est un problème de responsabilité. Et moi, je dis, je vais être un peu cru, mais je dis aux parents des gamins de Charente, nous n'avons vraisemblablement pas de Mbappé dans nos effectifs. Donc, laissez vos enfants jouer pour être à l'aise, pour être bien dans leur compte et évoluer en district, voire en ligue un petit peu plus tard si, pour les meilleurs. Mais, arrêtons les parents, arrêtez de penser que vos enfants vont être des stars du football. Peut-être, quand on regarde ce qui s'est passé dans les 20 dernières années en Charente, on n'en a quand même pas beaucoup des stars du football. Donc il faut laisser des gamins, il faut laisser les gamins vivre leur passion, il faut laisser les clubs s'occuper des gamins et les clubs le font bien. Et on a beaucoup, beaucoup d'éducateurs qui sont formés. Voilà. Mais les parents, il faut qu'ils reprennent un peu de distance avec tout ça.
C'est un phénomène sociétal, hein. C'est impacté par ce qui se passe au plus haut niveau. Quand on voit les attitudes qu'il y a avec les manifs de supporters, les problèmes avec les arbitres, c'est le sommet de la pyramide, mais directement, ça impacte la base, hein.
Je partage et je le regrette. Mais j'ai aucun moyen d'action, mais je suis complètement d'accord avec
toi. Non, mais c'est sûr.
Je comprends bien, oui.
À la limite, dis-moi, j'ai une action en tête. Peut-être qu'il faudrait qu'on interdise à nos jeunes licenciés de regarder la télé.
Ça va être compliqué.
Non, mais je pense que Gilles, je pense que c'est comme dans toutes les activités sportives. Peut-être que les responsables ou le président devraient peut-être réunir les parents qui sont difficiles et leur dire attendez, si on joue au football, il y a des arbitres, il faut les respecter. C'est malheureux, mais on est obligé de passer par là de temps en temps.
Oui, bien sûr. C'est une responsabilité individuelle aussi.
Certes. Parce que moi, je le vois, je suis des matchs de foot, il n'y a pas d'arbitre. Alors, c'est encore pire quand il n'y a pas d'arbitre. Parce que si c'est l'arbitre du champ, mais qui est sur sa commune, il va dire, mais il fait du favoritisme alors qu'il n'en fait pas du tout. Voilà. C'est ça le problème qu'il y a.
Si, peut-être que... Alors, des fois, j'ai des pensées un peu extrémistes, mais peut-être qu'il faudrait plusieurs jours sans arbitre pour que les gens comprennent que, malheureusement, il faut des arbitres pour jouer au foot. Voilà. Alors, après, j'entends de là que mes propos pourront provoquer dans des clubs. Je ne dis pas que les arbitres sont irréprochables, je ne dis pas qu'ils ont toujours raison, mais les arbitres, ils font comme les joueurs, ils peuvent louper des décisions, comme certains joueurs peuvent louper des buts, louper des occasions. Voilà. Et puis si on est dans une démarche où on veut, encore une fois, vivre la passion du foot avec plaisir, si on veut rencontrer des gens, si on veut échanger, il faut arrêter de se prendre pour des stars et puis vivre notre foot au niveau de notre département.
C'est clair. Moi, je trouvais, pour arrêter sur l'arbitrage, je trouvais que il y a quelques années, ce qui était bien, c'est quand le joueur était suspendu, qui lui, a été puni d'aller arbitrer un match. Moi, je trouvais que c'était bien.
Ouais. Alors, c'est une idée qu'on a effectivement abandonnée, parce qu'il y en a qui trouvaient ça bien, d'autres qui trouvaient ça pas bien. Dans notre volonté, je vais dire politique, qui est de rencontrer les clubs, d'échanger avec eux, c'est un sujet qu'on peut remettre sur le tapis. Alors, quand même, pour être clair, t'as des clubs qui ne venaient pas aux convocations qu'on leur adressait,
Bah oui.
Donc, pourquoi pas? Bon, c'est comme quand des fois on reparle du permis à points. Oui, après, c'est aussi au club à prendre leurs responsabilités. Donc nous, dans notre projet Trajectoire 2024, on a une volonté, c'est d'associer les clubs à nos réflexions, à nos décisions. Par moment, c'est au comité de direction, nous sommes 20, il peut y avoir 10 avis pour, 10 avis contre, donc c'est bien aussi de prendre l'avis des clubs. Oui, c'est un sujet qu'on pourra remettre sur le tapis. Il n'y a aucun a priori pour dire on ne reviendra pas sur cette idée.
On a balayé la moitié du dossier. Donc, est-ce que tu peux nous passer maintenant au volet des axes de travail et des objectifs que vous êtes fixés pour les saisons à venir?
D'abord, dire que nous sommes à mi-mandat, l'équipe actuelle. On a été élu en 2020. Notre mandat va jusqu'à juin 2024. Donc, on est à mi-mandat. Notre projet qui sert de fil rouge de tout ce que l'on fait, c'est le projet Trajectoire 2024. On a fait beaucoup de choses sur ce projet-là. On n'a pas tout fait, mais c'est normal. On a fait beaucoup de choses. On a même fait des choses qui n'étaient pas prévues. Donc voilà. Donc globalement, le projet de l'équipe en place, il fonctionne bien. Alors, on s'est donné pour cette année 3 priorités. Tout ce qui est le domaine des pratiques, de la pratique du foot, tout ce qui est l'arbitrage et l'accompagnement des clubs. Donc l'arbitrage, on vient de le traiter.
Oui.
C'est la relance du plan d'arbitrage avec les différentes actions. Donc je vais faire l'économie de revenir dessus. Le premier point, c'est la pratique. Donc là, dans la pratique, la priorité de nos priorités, c'est la pratique féminine. Alors, je m'explique. Et des plus jeunes notamment, je m'explique. Les féminines, c'est là où il y a le plus important potentiel de développement. Démographiquement parlant, c'est là où on a le plus de possibilités de faire licence et d'accueillir les jeunes filles. En revanche, et tout à l'heure, je disais, plus 40% sur le foot d'animation chez les filles. Donc ça montre que malgré le Covid, les jeunes et les filles ont envie de pratiquer le football. Alors, en revanche, c'est une catégorie sur laquelle on perd beaucoup. Je vais vous donner 2 chiffres. Des filles qui jouent en mixité, c'est-à-dire des filles que l'on met dès les premiers pas avec des garçons. Au bout d'un an, on en perd 60%. Quand elles jouent contre filles, on n'en perd que 30%. Alors, le fait de perdre des licenciés au bout d'un an de pratique, c'est pas normal, dans tous les sports, ça existe. Des gamins qui tentent un sport, qui pensent que ça allait leur plaire, ça leur plaît pas, l'horaire va pas aux parents, etc. Donc ça veut dire quoi? Nous, il faut qu'on favorise la pratique des filles entre elles. Donc d'ores et déjà, je tiens à dire que si des filles ont envie et ont la qualité et la capacité de jouer avec des garçons, on va surtout pas l'interdire. Par contre, ce que l'on veut, c'est que les filles qui veulent jouer contre elles puissent pratiquer aussi. Alors, on nous dit souvent, oui, mais moi, j'ai que 3 filles, j'en ai que 4, j'en ai que 5, etc. Donc, on va favoriser ça. On va favoriser le foot à 3, le foot à 4, le foot à 5, le foot à 8. Nous, notre objectif, c'est permettre à toutes les filles qui ont envie de jouer, quelle que soit la forme de pratique. Donc, par exemple, on va à partir, alors, la rentrée du foot féminin, c'est le 1er octobre à Soyaux. Et on va tout faire, enfin on va pas tout faire, on a prévu, à partir du mois d'octobre, d'avoir deux regroupements uniquement féminines tous les mois. Alors, peut-être pas les mois de vacances, hein, mais nous, ce qu'on veut, parce qu'avec le Covid, on avait un petit peu mis en sommeil ça, tous les mois, les filles pourront jouer entre elles, quel que soit le type d'équipe, 3, 4, 5, plus, 8, elles pourront jouer sur des plateaux. Et on va même plus loin, c'est que si deux équipes n'ont pas assez de joueuses pour pouvoir jouer, elles pourront se mettre ensemble pour jouer. L'objectif, vous l'avez compris, c'est on veut que les gamines, elles jouent. Et elles jouent entre elles. Après, encore une fois, les meilleures, bien entendu, elles joueront avec des garçons ou alors elles iront dans des clubs un petit peu plus structurés. Mais à la base, il faut que tout le monde puisse jouer. Moi, je à chaque fois qu'on s'est vu, j'ai pris l'exemple, donc je vais essayer de le raccourcir. Ma petite fille, il y a 3-4 ans, une de mes petites filles est allée jouer dans un club. Au bout d'un an, elle est arrêtée. Je dis, pourquoi t'arrêtes? Elle me dit, écoute, on est que deux filles et quand on joue avec les garçons, ils ne donnent pas la balle. Ben, ça, c'est intolérable. Parce qu'en plus, les gamins, là, ils sont pas meilleurs parce qu'ils donnent pas la balle aux filles, hein. S'ils étaient meilleurs, ils seraient partis dans des clubs professionnels. Donc, il faut qu'on casse cette image. Alors, on va aussi, dans le cadre de ce plan de relance de la pratique féminine, on va aussi travailler pour labelliser les écoles de foot. Aujourd'hui, on a 6 écoles de foot labellisées écoles de foot féminines. On voudrait, au terme des 2 ans qu'il nous reste, arriver à 10-12. Alors, pourquoi? C'est pas seulement pour avoir des... Pour se dire, on a doublé le nombre d'écoles de foot labellisées. C'est parce qu'aujourd'hui, les parents, les grands-parents qui confient, qui accompagnent leurs enfants, leurs petits-enfants dans un club de foot, ils veulent des gens formés, un club structuré, ils veulent des précautions sur la pratique, ils veulent des vestiaires adaptés. Donc, il faut absolument qu'on travaille et on va accompagner les clubs là-dessus. Et dans ce cadre-là, c'est le dernier point, on va développer des formations spécifiques sur la formation de la pratique féminine qui est un petit peu différente de la pratique masculine.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 90.7, mais aussi www.attitude.fm. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports, le lundi 19h-20h30. Nous retrouvons notre invité Giroud Finia, président du district, qui répond au feu des questions de BD. Messieurs, c'est à vous.
Oui, ce que je voulais dire, donc, 3 priorités. Le développement des pratiques. Alors, je viens de parler des féminines. Il y a un autre aspect aussi pour les garçons, c'est les centres de perfectionnement U13. Donc, ça, c'est une action qui a été initiée la saison dernière par la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine, dans laquelle on s'est engouffré. Donc, les centres de perfectionnement U13, elles permettent aux gamins des clubs hors ACFC, hors Cognac, où ils ont déjà leur structure de formation, et de permettre à des gamins d'autres clubs d'être suivis, encouragés, formés par des animateurs de la commission technique formation labellisation et par des éducateurs de clubs, avec 1 à 2 séances de formation par mois et avec un programme de formation qui est le même selon les différents centres, hein, c'est-à-dire qu'à Mansle, à Jarnac ou à Puymoyen, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qui fait partie de la formation planifiée par les équipes techniques de la DTN, Direction Technique Nationale, ou de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc cette année, on va poursuivre tellement réduire un peu la voilure, c'est-à-dire avoir beaucoup d'énergie en matière de moyens humains, et que les RTJ sont des gens qui ont déjà des missions dans leur club et on ne peut pas trop les mobiliser.
Et puis le dernier point sur la pratique, c'est le développement du foot à 7. Alors le foot à 7, il y a un an, personne n'y croyait. Je rappelle que c'est une pratique qu'on a mis en place, qui existe dans beaucoup de districts et qui marche bien, qu'on a mis en place pour éviter aux clubs de perdre des licenciés. Et l'an dernier, comme on a lancé ça en cours de saison, on a eu 9 clubs inscrits. À aujourd'hui, nous avons 19 clubs inscrits dans le critérium A7, ce qui d'ailleurs fait chuter un peu le nombre d'équipes engagées en 5e division. Et donc, ça veut dire que on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion avec le comité de direction et avec les clubs, on va les associer sur notre pyramide de compétition. Est-ce qu'il faut, oui ou non, garder une cinquième division? Je ne sais pas, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la réponse, mais il faut qu'on se pose la question. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a 12 équipes en D1, 24 en D2, 48 en D3, 48 en D4, et on retombe à 35 en D5. Donc, on a une pyramide qui, au niveau de la base, est en train de s'effriter.
Donc, ça, c'est en plein développement, si j'ai bien compris. Le foot à 7, ça se passe à l'extérieur, on est bien d'accord. Est-ce que le foot en salle, par contre, lui, a pris également un petit peu son envol?
Non, on a beaucoup de difficultés. Ça fait partie des choses qu'on aimerait travailler. On va commencer par les jeunes. Mais sur le foot salle, on a une grosse difficulté, contrairement à certains districts. Et c'est historique. C'est qu'on a très peu de salles à notre disposition. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, mais pourtant, ça fait partie de ce qu'on voudrait diversifier, parce que notamment chez les jeunes et en période de vacances scolaires, c'est une pratique qui marche dans certains districts. Mais bon,
c'est structurel là donc.
Ouais, c'est structurel effectivement. C'est structurel. Bah, c'est d'ailleurs c'est difficile à comprendre parce que par exemple nos amis de Dordogne, ils ont une activité futsal qui est très développée. Je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup plus de salles que nous, mais peut-être que les clubs. Parce que le problème des salles chez nous, c'est le problème de l'occupation.
C'est clair. Hein,
c'est exact. C'est exact.
Et à partir, il faut se répartir entre le tennis, le basket, la gym, etc.
À partir du moment où les créneaux sont déjà pris, bah, c'est difficile de créer un créneau pour le foot.
Je le vois à l'ERSA qu'on a une salle omnisport. Cette salle omnisport, si aujourd'hui on voulait faire une équipe de foot en salle, on ne pourrait pas parce que la salle elle est prise toute l'année.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'ai repris le terme de Didier. Oui, c'est structurel. Mais alors c'est structurel et puis je pense aussi que c'est un peu l'historique. Peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait une certaine période. Peut-être qu'on a pris du retard. Voilà, mais honnêtement, il n'y a pas de raison que ça marche en Charente-Maritime, en Dordogne, et pas chez nous.
Oui, bien sûr.
C'est clair. C'est clair.
Voilà, le troisième point que je voulais développer, donc dans nos priorités, je rappelle la pratique, l'arbitrage, et c'est le soutien au club. Donc en matière de soutien et d'accompagnement des clubs dans leur structuration, parce que vraiment la colonne vertébrale de ce que l'on veut faire avec les clubs, c'est de les aider à se structurer. Il y a fort à parier qu'à l'avenir on ira vers une diminution de clubs, même si c'est pas une diminution très importante, hein. Une diminution ou un regroupement de clubs. Encore une fois, je le répète, les parents, les grands-parents qui confient et qui accompagnent leurs enfants dans une structure, ils veulent un club bien organisé, structuré, où on sait qui s'occupe de quoi, avec des organigrammes, avec des lieux de vie, avec tout ce qui permet qu'au-delà de la pratique du foot, les gamins sont contents et sont fiers d'appartenir à une structure. Donc tout, c'est un peu notre ligne de fond, notre ligne d'horizon, c'est d'aider les clubs sur leur structuration. Donc on travaille par exemple avec les RTJ pour choisir les actions qui correspondent le plus aux envies des clubs.
Bon, nos auditeurs, qu'est-ce que
la RTJ? RTJ, c'est responsable technique jeune. Allez, je vais schématiser. Ce sont les responsables des écoles de football.
D'accord.
Donc ce sont les gens qui ont une responsabilité dans les clubs pour travailler sur le foot des jeunes. Donc on va mettre en place une action qui s'appelle coup de pouce, dont l'objectif est de réserver une somme sur nos résultats, dès lors que les résultats sont positifs, pour aider les clubs dans des projets. Alors, cette année, par exemple, on finit avec un excédent d'à peu près 5000 euros, mais parce qu'on a déjà mené des actions pour les clubs en termes de récompenses, de dotations. L'an prochain, on se dira, voilà, notre résultat prévisionnel, il est par exemple de 15 000 euros. En gros, c'est ce qu'on fait régulièrement. Sur ces 15 000 euros, qu'est-ce qu'on garde pour nous et qu'est-ce qu'on veut mettre à disposition des clubs? Et donc, par exemple, ça sera de dire, ben voilà, on réserve une enveloppe de 10 000 euros qui sert à alimenter un fonds et ce fonds permettra de soutenir des opérations de clubs. Alors, on est en train de définir exactement les actions qui pourront être aidées ou pas être aidées. Ce qui est clair, c'est que on fera pas doublon avec des dispositifs qui existent. C'est-à-dire, pour la formation, il y a des bons formations. Pour les investissements, il y a ce qu'on appelle le FAFA, le fonds d'aide au football amateur. Mais par exemple, il y a plein d'actions qui peuvent être, menées ou qui ne sont pas menées par les clubs parce qu'il leur manque un petit peu de ressources. Donc, notre objectif sera pas de financer 100% d'actions, mais de donner le coup d'accélérateur qui permettra aux clubs de mener leur action. Alors, dans le domaine de la responsabilité, de la citoyenneté, du développement durable. Alors, on a un programme qui s'appelle le programme éducatif fédéral, qui au-delà du foot permet aux jeunes footballeurs d'être aussi des citoyens. Et je pense que ça sera un point sur lequel on centrera nos efforts. Beaucoup d'actions en perspective.
Et les objectifs seront atteints en 2024, c'est sûr, quand on voit toute l'énergie que tous dépensent au niveau du district, c'est sûr. Et puis, il y a aussi cette fameuse Coupe Charente district qui te tient aussi à cœur, à vous tous, je dirais même.
Oui, alors, ça me permet d'évoquer le rôle du district. Le district, il est piloté par une association composée des clubs. Alors, l'association de district, ce sont les clubs. 117 clubs. Après, au niveau du pilotage, il y a 20 membres du comité de direction et puis il y a 121 élus. J'ai pris une image l'autre jour, j'ai dit le district, c'est une ruche dans laquelle se réalise un travail de fourmi. Parce qu'il y a aussi à côté de nous une équipe de 6 salariés. Et personne, je dis bien personne, sauf à avoir mis les pieds une fois au district et d'avoir participé, personne ne peut se douter le travail que ça représente. Alors, le travail, je parle pour les salariés, et pour nous, l'engagement pour les bénévoles. D'accord ? Alors, c'est pour ça que des fois, je suis un petit peu remonté ou un petit peu en colère quand on nous fait des procès d'intention. Moi, ma devise, c'est... Enfin, la devise, pardon, de l'équipe, c'est proche d'écoute, à l'écoute et utile. Alors, il est évident que quand on a dit ça, on peut pas tout faire, on peut pas tout accepter, et des fois on a aussi nos propres contraintes. On a eu récemment quelques difficultés sur les calendriers. Si les gens savaient comment ça se passe, le travail que ça représente, et le fait que nous sommes liés à un outil informatique qui n'est pas le nôtre, c'est contraignant. Alors qu'on avait bon nombre de nos dirigeants, de nos licenciés, de nos parents qui étaient en vacances sur la plage à Royan ou dans les Pyrénées, moi j'avais des commissions qui venaient toutes les semaines au mois de juillet ou au mois d'août travailler sur les calendriers. Donc des fois je suis un peu remonté, je suis même des fois un petit peu à la limite parce que je ne peux pas accepter qu'on tape sur le district et sur ses bénévoles alors que c'est des gens qui font le travail de façon désintéressée. Personne au district ne reçoit, je parle des élus, je parle pas des salariés, hein, mais personne ne reçoit le moindre centime de rémunération, d'indemnité ou de gratification. Donc, on le fait avec cœur, on le fait avec passion. Bon, peut-être que quelquefois, on se trompe ou on prend pas les bonnes décisions, mais on peut pas nous reprocher notre investissement. Et en plus, soyons honnêtes, c'est un investissement de tous les instants. Voilà. Donc, pourquoi je disais ça? Quelle était ta question? Excuse-moi, je me suis un peu enflammé. C'était quoi ta question?
Sur les coupes.
Oui, oui. Alors, ce que je veux dire, oui, ça y est, ça me revient. Ce que je veux dire, c'est une fois que j'ai dit ça, on fait tout pour qu'on puisse mettre en place notre programme d'action. On fait tout pour que les clubs jouent. On fait tout pour que les licenciés soient satisfaits. Moi qui viens du monde de l'entreprise, je considère que le district, c'est une entreprise. On a des clients, ben oui. Ce sont les clubs, les licenciés, les dirigeants, etc. Plus les gens sont satisfaits, plus ils continueront à venir chez nous. Si on est nul, si on prend de mauvaises décisions, si on les intéresse pas, il est certain que les gens, ils s'arrêteront, ils iront voir ailleurs. Donc voilà, encore une fois, on ne peut pas se faire on veut pas nous faire ce procès. Toutes les décisions que l'on prend, elles ont pour objectif d'aider les clubs. Et quand tout à l'heure j'évoquais l'action coup de pouce, c'est bien l'exemple que le district, il n'est pas là pour faire des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de bénéfices pour lui et pour amasser un trésor de guerre. Il est là pour faire avoir une bonne gestion, faire des excédents et les remettre à disposition des clubs. C'est notre politique et on continuera.
On sent vraiment un engagement de tous les instants, Gilles, dans ce que tu nous dis, dans le projet donc 2024. Et c'est clair que vous œuvrez au-delà des urgences quotidiennes.
Oui, oui, oui. Ah, ça, si tu veux, c'est aussi l'objectif d'une équipe dirigeante. C'est il faut à la fois gérer le court terme et puis voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, quoi.
Bien sûr.
Alors, c'est pour ça que des fois, on passe. Pas des fois, assez souvent, on passe du temps à réfléchir à ce qui pourrait arriver après. Mmh.
Mmh. Alors, Christian, qui n'est pas là, m'avait demandé de t'interroger sur les étoiles. Donc, est-ce que tu... Oui, vas-y, Gilles.
Oui, non, je t'ai pas entendu, excuse-moi.
Non, Christian, donc, qui nous a pas encore rejoint, m'avait demandé de t'interroger sur les étoiles. Donc, sur ce nouveau phénomène sportif.
Oui, alors c'est une nouvelle action. Alors là aussi, je tiens, merci de faire la transition. Je tiens à dire que nous, on a de la volonté, on a des envies et on a de l'engagement. Mais si on n'avait pas un certain nombre de soutiens, on pourrait pas y arriver. Donc on a des soutiens de par le monde du football à travers des subventions Fédé, Ligue de football amateur et Ligue de football Nouvelle-Aquitaine. Hein, alors on n'a pas des subventions parce qu'on lui demande et qu'on claque des doigts. Il y a des dossiers à monter, il y a des objectifs à tenir. Après, on a les collectivités, je pense notamment au conseil départemental de la Charente, que je remercie de son soutien, je pense au MDOS. Et puis après, on a des partenaires privés. Alors nous, notre partenaire privé historique, c'est le Crédit Agricole, mais on a aussi AXA, on a Intersport, on a Montero, Rénov, etc. Donc voilà, on a photocopieur.com, on a des gens qui nous soutiennent, mais ils nous soutiennent parce que ils ont compris que notre action, encore une fois, c'est pas pour se faire du gras sur leur dos, c'est pour aider les licenciés et aider les clubs. Donc merci à tous ces partenaires qui nous aident. Excuse-moi Didier, j'ai encore oublié ta question.
Non, c'était peux-tu nous revenir un instant sur les étoiles?
Ah oui, d'accord. Merci. Merci Didier et Christian, merci. Oui, et donc on a aussi les médias qui nous aident, particulièrement Charentes-Libre. Alors, moi j'ai des collègues présidents de district qui sont envieux de ce que l'on a comme couverture presse. Il y en a qui disent, mais qu'est-ce que tu fais avec ta presse pour avoir autant de couverture? Je rappelle que le vendredi et le samedi, le vendredi il y a une pleine page sur le foot, le samedi il y en a un peu aussi. Que le dimanche, il y en a, que le mardi, il y a les pages de
la vie des clubs.
La vie des clubs. Et donc, on mène avec Charentes-Libre deux actions. Une qui est un peu ancienne, enfin, qui date de plusieurs saisons, c'est le challenge des meilleurs buteurs. On fait ça en partenariat avec Sport 2000 à Barbezieux, que je remercie également. Et cette année, Charentes-Libre nous a proposé une nouvelle action, c'est les étoiles de la semaine. Alors, moi, j'ai tout de suite foncé. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est que de déterminer toutes les semaines l'équipe type de première et de deuxième division de district. Et pour que ce soit complètement objectif, ce sont les entraîneurs des équipes de D1 et de D2 qui participent à l'élection. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Par exemple, le club de Lessac, il va jouer contre Saint-Séverin-Palot. Eh ben, il faut que l'entraîneur de l'ESSAC dise, dans l'équipe de Saint-Séverin-Palot, pour moi, le meilleur joueur, c'est un tel. Mmh. Et vice versa. Et quand Moutier va aller jouer à Alliance 3B, Fred Clément de Moutier, l'entraîneur, va dire, moi, Alliance 3B, c'est celui le meilleur joueur pour moi. Et Alliance 3B va faire pareil. Alors, pourquoi je précise ça? C'est comme d'habitude, les gens bien intentionnés sur les réseaux sociaux n'ont rien compris. C'est pas, comme disait Coluche, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on a le droit de l'ouvrir. Et donc les gens qui n'ont pas compris ont dit « Ouais, mais ça va être facile, chacun va positionner ses joueurs. » Non, c'est l'entraîneur de l'équipe A qui détermine qui est le meilleur joueur de l'équipe B. Donc c'est complètement transparent. Sauf si c'est un bon frère ou ou un membre de sa famille, ce que je ne l'imagine pas. Donc c'est une super idée qui va permettre de valoriser les clubs, de valoriser les joueurs, parce que moi je suis intimement convaincu, et on le voit avec le niveau national, quand il y a quelque chose d'attractif, de valorisant, de positif, ça donne envie aux gens de pratiquer. Il n'y a jamais eu autant de joueurs de tennis que quand Noah a gagné Roland-Garros. Il n'y a jamais eu autant de jeunes licenciés que quand l'équipe de France en 2018 a gagné la Coupe du Monde. Donc tout ce qui peut favoriser l'émulation du football départemental, pour moi c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que je tiens à remercier Charente Libre de cette belle proposition sur laquelle j'ai donné mon accord immédiatement.
Ça, c'est quelque chose de tout à fait originel, hein. Donc, original, pardon. C'est pas, c'est pas du vu dans les districts de Dordogne, de Charente-Maritime, de Vienne, ou de la Creuse. Hein.
Je peux te dire qu'en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes le seul district, mais grâce à Charente-Maritime, moi, j'ai aucun mérite, hein. On est venu me proposer une action. Je l'ai accepté. Je dis après, bon, on va voir comment on peut la doter. Mais j'ai accepté. Donc, moi, j'ai aucun mérite. Donc, le mérite, il revient à Charente Libre. Et si Charente Libre a envie de le faire, ça veut dire aussi qu'ils ont senti l'intérêt qu'il y avait des clubs charentais à participer à ce type d'opération.
Parfait. Donc, au niveau des coupes maintenant, donc, quel regard tu portes sur l'édition 2021-2022?
Alors, pour les coupes, on a une nouveauté cette année. Compte tenu que le stade de Bonn n'était pas libre normalement à partir de la mi-mai, on a dû délocaliser des finales de coupe. Donc les coupes seniors sont faites à Le Bon. Il y avait 2 ans qu'il n'y en avait pas eu. Ça a été de la fête. On a eu de beaux vainqueurs. On a eu une belle ambiance. On a eu de la convivialité, du respect sur le terrain. Ouais, toujours 2-3 personnes qui sont comptées de décision de l'arbitre, mais ça serait le contraire, serait étonnant. Donc voilà, donc on a eu de belles coupes. Après, on a dû délocaliser notamment notre coupe jeune à Chasseneuil et notre coupe le Critérium A7 à La Rochefoucauld. Ça a été un succès. Les clubs locaux qui ont organisé ont bien joué le jeu, s'en sont bien tirés. Voilà. Je pense que l'an prochain, parce que jouer à Le Bon, Dédé, tu le sais bien, hein, jouer à Le Bon, c'est quand même mythique. Pour un joueur de district ou pour un jeune de district.
Voilà, le stade français pour nous.
Oui, c'est ça. Donc je pense que même si l'opération cette année s'est bien passée, même si les clubs ont bien joué le jeu, je pense que si on peut, on va faire en sorte de faire nos finales au moins de coupe. Je parle peut-être pas de, tu sais, la Champions League, qui sont les finales de championnat. Ça peut-être que, parce que le stade Le Bon, il a aussi ses contraintes en termes d'occupation de terrain. Mais au moins les finales Coupe Senior et Coupe Jeune, si on peut les faire à Le Bon, les deux, je pense qu'on les refera à Le Bon. Mais sinon, on a eu de beaux vainqueurs, hein, Saint-Étienne en finale des réserves, Alliance 3B en finale de la Charente, Bouex en finale de la Coupe du District. Chez les jeunes, on a eu encore Saint-Étienne, on a eu Cognac, on a eu Mansle, me semble-t-il. Donc voilà, on a eu de... Et puis il me manque un club, excusez-moi. Et on a eu de belles finales. Hein. Voilà.
Vous avez fait
les finales. Les finales, c'est important parce que c'est un peu l'apothéose de la saison. C'est la cerise sur le gâteau. Puis encore une fois, quand les clubs... j'ai rien. Excusez-moi pour les supporters de Bouex, mais quand tu es à Bouex ou quand tu es... je me rappelle des années... À quelques années, quand tu es à Rouler, quand tu es à Sireuil, venir jouer sur le stade Le Bon, c'est quand même une belle récompense. Quoi.
Bah, c'est le Graal, en fait.
Ah oui, moi, j'ai eu la chance d'avoir remporté avec Nersac 2 coupes de Langue, moi, il y a dans les années 80, 81, 80, 82. Pour moi, c'était le Parc des Princes. On parlait pas de, parce que le Parc des Princes, il existait dans ce temps-là. Mais moi, j'ai pris plaisir. Et puis, en plus, encore cette année, enfin, tu y étais. Moi, j'ai regardé aussi. Et c'est des matchs qui sont quand même vivants. Enfin, on est pris dans le match. On est dedans.
C'est pas monotone, quoi. C'est bien sûr. Et puis, par rapport à ça, t'as les supporters qui sont présents. T'as l'ambiance. C'est une fête pour les joueurs. Je crois que c'est une fête aussi pour l'ensemble des clubs. Hein.
C'est clair.
Ah oui, moi, j'apprécie. Enfin, voilà.
Vous avez choisi Attitude 98. 93.3 et 90.7, mais aussi attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports de lundi 19h-20h30. Nous retrouvons notre invité Gilles Rouffignat, président du district, qui répond au feu croisé des questions de Dédé. Il nous reste environ 10 minutes avant la clôture de cette émission. Gilles, est-ce qu'il y a des points particuliers sur lesquels tu souhaiterais t'étendre, ou est-ce qu'on a oublié d'évoquer quelque chose?
Non, je crois qu'on a fait un tour d'horizon relativement complet. Si peut-être j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure dans le soutien au club que on avait mis l'an dernier en place une équipe de ce qu'on appelait notre équipe technique départementale, donc qui était composée de deux conseillers techniques, Vanessa Juge et Thibaut Gabart, et on a recruté un BPJEPS, un conseiller technique pour s'occuper notamment des écoles de foot et du foot à l'école. Alors, genre d'organisation interne, la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine a en guillemets récupéré Vanessa Juge au mois de septembre, et nous sommes actuellement en train de recruter un conseiller technique départemental pour refaire cette équipe de trois, parce que on a beaucoup d'actions. Tu sais, quand j'entends dire mais qu'est-ce qu'ils font au district, ben j'aimerais qu'ils viennent voir ce que l'on fait et qu'on leur explique. Et donc là aujourd'hui on a qu'un conseiller technique et un BPJEPS. On a lancé une offre d'emploi sur les réseaux sociaux et sur les sites officiels avec un recrutement au plus tard le 1er décembre. Donc voilà, notre volonté, c'est bien, encore une fois, moi, je le dis souvent, le district, il existe que parce qu'il y a des clubs. Donc s'il y avait plus de clubs, il y aurait plus de district. Donc si on veut préserver notre rayon d'action, il faut qu'on soit vraiment au service des clubs. Et dans toutes les décisions, encore une fois, même si toutes ne font pas partie plaisir à tout le monde, on a bien en tête que notre objectif, c'est d'aider les clubs, de les accompagner, de leur donner des moyens, de les encourager pour qu'ils aient envie de s'investir eux aussi dans leur structuration et dans le développement du foot.
Qu'est-ce que fait Gilles le week-end?
Je vais peut-être te surprendre. Mais Gilles, le week-end, il essaye de se consacrer à sa famille et aux siens. Hein, j'ai 3 enfants, 6 petits-enfants. Je vais de temps en temps sur les terrains. Mais compte tenu que dans la semaine, du lundi au samedi, de 5h le matin à 23h le soir, je travaille pour le district, sur mon micro-ordinateur, alors pas forcément sur le district. Je considère que sans avoir un emploi à temps plein, j'ai une occupation à temps plein. Vous voyez l'amplitude. Hein, ce matin, j'étais debout pour préparer l'AG. J'étais debout à 4h. Je m'étais couché à minuit, debout à 4h. Donc le week-end, j'essaye de me préserver un petit peu parce qu'on a aussi besoin de l'équilibre familial. Bien sûr. Mais il m'arrive aussi d'aller voir des vaches, bien entendu, avec grand plaisir. Mais ça n'est pas mon occupation. Parce que je suis pas un technicien, donc je peux aller sur un stade pour faire plaisir aux gens, ça fait partie de mon job. Et je suis aussi utile à préparer des dossiers, à mener des réflexions, à faire avancer les choses de mon bureau.
Donc, parfait, Gilles.
Parce que des fois on me pose la question, c'est pas un métier, président de district. Donc je le répète, je n'ai aucune indemnité pour faire ça. Si je le fais, c'est parce que j'ai envie que je peux le faire. C'est pas un métier, mais je pense que c'est un vrai sacerdoce. Si on veut bien le faire. Hein.
Oui. C'est clair. Eh bien, écoute, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation, Gilles. C'est vraiment un plaisir que de te recevoir. On mesure totalement ton implication dans la vie du district, à toi et ton équipe. Donc, c'est bien de temps en temps de venir avec nous pour donner un coup de projecteur sur la tâche primordiale du district, qui est de faire le bon fonctionnement et d'être à l'écoute des clubs. Et c'est surtout ce qui nous paraît important de souligner. Donc c'est avant tout un travail d'écoute.
Oui, alors, et tu fais bien de le signaler, parce que peut-être j'ai un peu passé là-dessus, juste en 30 secondes. Ce que je vous exprime de mes convictions, de ma façon de procéder, ne serait pas possible s'il n'y avait pas d'équipe. Donc j'ai la chance d'avoir bien une sûr. équipe. Nous sommes 20 au comité de direction. Encore une fois, il y a 121 bénévoles qui s'investissent. Il y a des salariés. Alors, je vous cache pas qu'on n'est pas toujours d'accord tous en même moment sur le même sujet. Mais globalement, on arrive à faire avancer les choses, tout simplement parce que nous sommes une équipe. Donc, merci d'avoir précisé, parce que j'aurais surtout pas voulu les oublier. Et je les remercie publiquement.
Parfait Gilles. Merci beaucoup. Donc on te souhaite bon courage, bonne fin de soirée. À tout bientôt de t'entendre sur les ondes. On a le plaisir de te recevoir environ deux fois par an. Et c'est un plaisir, et c'est un plaisir partagé en tout cas.
Merci à vous.
Bonne fin de soirée.
Bonne soirée à vous. Au revoir.